Perfect. Donc nous allons pouvoir reprendre avec une table ronde intitulée « L'artiste dans la boucle technologie pratique et économie de la création musicale ». Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Jérôme Nika et Stéphane Lattner, que vous avez déjà entendu dans les présentations précédentes, et également donc Sacha Kurstulovic, ici présent, et Michael Turbo, qui est avec nous à distance sur la petite vidéo intégrée dans le slide. Alors, cette table ronde va être en franglais. On va faire ce qu'on peut. et j'espère que tu entends, enfin, tu comprends suffisamment bien le français aussi pour suivre un petit peu. Mais on basculera au besoin. Alors Sacha, merci d'être avec nous maintenant. Est-ce que tu peux t'introduire? Moi, je te connais depuis longtemps, mais oui, peut-être les gens dans l'audience moins.
Ça fait un bail. Donc, merci pour cette invitation à contribuer à la journée ICAR Fast Forward. Donc, je suis Sacha Kostulovic. Comme vient de le dire Nico, j'ai une carrière assez longue dans l'IA pour l'audio. À l'époque, je faisais la synthèse de parole chez Toshiba. Après, j'ai fait un peu de reconnaissance de parole chez Nuance. Et j'ai été dans une start-up qui s'appelle Audio Analytics, où on faisait un sens de l'audition pour les ordinateurs, donc reconnaître les bris de glace, les chiens qui aboient, les bébés qui pleurent et tout ça. Je dirais, chez Audio Analytics, c'est là que de quelqu'un qui était un chercheur, j'ai dû me transformer en quelqu'un qui était plutôt un manager de technologie et quelqu'un qui était plus en prise avec l'impact économique de la technologie, puisque quand on est une start-up, on vit pas de subventions, on vit de choses qui sont... Il faut vendre, il faut vendre la techno, il faut trouver comment on va l'utiliser, il faut trouver qu'est-ce qui intéresse les utilisateurs, qu'est-ce que les gens vont vouloir payer pour utiliser quoi. Donc ça, c'était chez Audio Analytics. La compagnie a fait une sortie avec Meta, donc on a fait une techno qui a été appréciée, disons, par un des gros de la Big Tech. Après ça, j'étais directeur de la recherche en AI chez Music Tribe, qui est un équipementier audio qui fait des consoles, des interfaces audio, donc les consoles Midas, les pédales de guitare TC Electronics, les interfaces audio et les synthés Behringer. Vous êtes probablement familiers, certains d'entre vous, avec ces marques. Elles font toutes partie de Music Tribe. Et là, la mission, c'était d'appliquer l'IA, enfin de trouver comment faire de la valeur dans le domaine de l'équipement audio avec de l'IA. Et on peut en parler après si vous avez des questions. Et là, à l'heure actuelle, j'ai ma propre consultance, enfin, entreprise de consultation. Donc, si vous voulez des insights sur comment on transforme une capacité technologique. Donc, ce matin, on a beaucoup vu de capacités technologiques très, très puissantes, très intéressantes, qui attirent l'attention, la composition des comportements, la génération conditionnelle musicale. Mais il y a quand même tout un travail à faire sur comment on distribue ces choses-là. Est-ce qu'on veut faire du cloud? Est-ce qu'on veut faire de l'embarqué? Est-ce qu'on veut faire un plugin pour les DAW et tout ça? Et ça, c'est le genre de travail ou d'éléments de cette chaîne entre la capacité technologique et le musicien que je représente sur ce plateau.
Merci. Alors, je ne suis pas encore un animateur professionnel. J'ai oublié de dire au public, si vous avez des questions, vous levez la main et il y aura une personne avec un micro qui se déplacera et vous, tout au long de la table ronde, donc n'hésitez pas. Voilà. Alors, je vais enchaîner avec ma première question, Sacha. Tu as vu ces deux présentations de Jérôme, de Stéphane. On voit des applications et des outils extrêmement diversifiés. Ok. Qu'est-ce que ça provoque chez toi? Quelle réaction en tant que justement dans ta position actuelle?
Je suis super impressionné. Donc effectivement, il y a des capacités technologiques, disons fondamentales, qui sont super intéressantes, qui ont un potentiel énorme. À partir de là, encore une fois, il faut faire un travail de transformation de ces capacités technologiques en produits. Par exemple, du côté de Sony, Stéphane a fait quelque chose de très intéressant, qui est de mettre ces choses en accès libre sur l'Internet. Donc là, on peut analyser comment les utilisateurs eux-mêmes vont commencer à se servir de la technologie et puis à partir de là décider, je sais pas, Sony, je suis pas dans leur plan, mais décider de peut-être faire un produit commercial autour de ça. Ça peut être un plugin, ça peut être un modèle de souscription. Enfin, encore une fois, il y a tout un travail industriel à faire pour générer de l'impact économique à partir de ces capacités technologiques qui, encore une fois, ça n'enlève rien au fait que ces capacités technologiques sont super impressionnantes. Mais si on veut faire de l'impact économique avec, il y a un travail, il y a des méthodes pour le faire, de transformation de la capacité technologique en produit.
Okay. J'ai disparu. Ah non, c'est bon, je suis de retour. Jérôme, je reviendrai à toi après. Je connais assez bien pas trop mal les modèles justement de recherche et de collaboration artistique au sein de l'IRCAM. Je les connais un peu moins bien chez Sony, alors Sony CSL et Sony AI. So I will switch to English right now because I will turn to Stefan and Michael. Can you describe how you presented in the during your talk some usage with artists, like for the piano, for instance, or I saw read in the media about DifferReef and artists using and some kind of a residency. How does it work and how do you work with artists? And both of you guys, so Michael also. And Michael, you can start because you are the, yeah.
So hello, my name is Michael. So I worked, my DNA is coming from the music business. I worked for 16 years in music labels and indie labels and major labels. I then switched to Sony CSL when their prototypes were starting to work and they realized that they needed to get closer to the industry. I worked for 5 years at Sony CSL and now I'm Sony AI. But I think that the discussion today is about how it is to work with artists. And I think that the main point is to understand that AI is a super powerful tool. But and Stefan said it earlier, the idea is that we need artists to understand how they work and what they can bring. And I think that this is it's something that Stefan said, is how to make music more fun, because music is extremely complicated to do. To do a song is something that is extremely complicated. It's not only to be creative, and therefore you need some tools to help you. And when you ask to artists from new generations who learn how to make music on YouTube, they don't have all these 10 years of experience of sound engineering or composition or arrangement. They need some tools to help them. And I think that the idea of Sony CSL, mainly because today we're talking about more about CSL, is how to put artists as soon as possible in the loop to understand if the tools are useful or not and how they can be used. And it's something that we very really value. It's something that we really try to work on, is to put artists as soon as possible in the loop to make sure that what we do is actually useful and helpful and not just a tech new prototype. And yeah, that's it on my side.
Stefan, can you maybe describe a use case, an example of a collaboration with some artists?
Yeah, it was very interesting. For example, Chaton, the artist that we presented a music example in this video, it basically just came. I mean, it's always you need to get to know artists first. He came to just basically playing around with our prototypes for 2-3 days, and then he decided to stay for another week, and then he decided to stay for another month, and basically said, okay, I will just create a full album. Because the prototypes are varied enough that I can actually create the material that I wanted. And in this case, it's more application-driven or usage-driven, where you basically have your finished tool and then you observe the artists and then you might learn from that and might go into an additional iteration. Currently, we are in this transition phase a bit, where we are searching for even more technically advanced artists, more nerdy people that also really understand the working of AI and what are the limits and what are the possibilities, so that we can even go deeper in the technical level already, because you already need to some degree know the use case of a model before you start training the model. So it's not only about afterwards building the user interface for the specific models. So we are now currently in talk with 5 different artists, where we will have short residencies, and with those that we can work very well, we will extend this, and actually starting to design really new tools from scratch, or go very deep into the technical level of how we could train differently and what use cases could be.
So there is actually a program and a call for residencies?
Yeah, now in collaboration with...
It's open, or is it like if I'm an artist and I decided to apply, or it's mm-hmm. Only for artists working with Sony labels and...
We did this now in collaboration with the Ars Electronica Center in Linz, in Austria, that have already a lot of contacts to artists. And so we got into contact with artists that way. Currently, we proceed this program that way. In terms of artists that are interested, they are always welcome to get in contact with us, and we can provide tools. It's not so easy to publish tools, to put them really online for the public, but it's much easier if we have a limited group of people. That we can actually then provide many more prototypes than only those that we actually then, put online or open up.
Alors maintenant, je vais me retourner, je vais changer de langue, et je vais tourner vers Jérôme Nika. On peut continuer en anglais si tu veux, mais on va essayer en français. Dans ta présentation, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, toi, j'avais présenté moi dans mon introduction donc une espèce de chaîne avec compartimenté recherche conception, innovation, développement et usage artistique ou pratique artistique. C'est très poreux. Ces limites sont probablement totalement artificielles et tu en es un bon exemple hein, parce que tu es un peu partout dans la chaîne, il y a même des choses où j'ai vu dans des crédits, tu fais de la création sonore toi également. Donc peut-être, ouais, c'est peut-être.
Oui, mais en fait, vu que l'idée de ces projets de recherche, c'est d'essayer non pas seulement d'impliquer les artistes en tant que personnes qui vont venir évaluer et donner du feedback sur les systèmes, mais qui vont également motiver leur développement. Il faut se trouver en situation concrète de production artistique pour faire avancer le prototypage de ces outils. Et le meilleur moyen, c'est cette pratique qui est commune aussi dans l'ethnomusicologie, qui est l'observation participante, c'est de dire, on s'embarque dans un projet de création avec des outils qui ne sont pas encore prêts, qui ne sont pas encore là, mais c'est bien le projet, c'est de se dire, puisqu'on a un concert dans X mois, X semaines, qu'on a un contour un peu flou de ce qu'on a envie d'avoir en termes d'électronique, c'est précisément en essayant de construire ce concert, cette performance, qu'on va trouver des fonctionnalités qui seront singulières, propres à ce projet, cette esthétique, et qu'on va également essayer, avec un peu de recul, de voir qu'est-ce qui peut être intéressant là-dedans à abstraire pour en faire une fonctionnalité qui va être... générique et utilisable dans d'autres projets.
Je me permettrai d'ajouter quelque chose, c'est que pour faire de la musique aujourd'hui, il y a 1000 plugins qui sortent chaque jour, et des plugins qui sont de plus en plus performants, et qu'il y a une particularité quand on travaille dans l'IA et dans la musique, c'est que l'IA fait des choses de manière différente, et c'est ce qu'on essaie de faire chez Sony CSL ou même chez Sony AI, c'est qu'est-ce que l'IA peut apporter que les outils ne peuvent pas forcément apporter. C'est quelque chose qui est extrêmement important et c'est pour ça qu'il faut passer du temps avec des artistes et c'est pour ça que Stéphane parlait tout à l'heure de faire des résidences. C'est de passer du temps avec les artistes pour leur expliquer ce que l'IA peut faire ou ce que l'IA ne peut pas faire parce que généralement les artistes qui veulent c'est avoir des outils qui soient meilleurs que ceux qu'ils ont déjà dans les mains et que l'IA étant un outil technologique qui est complètement différent, c'est comment faire en sorte de pouvoir appliquer de l'IA dans de la musique mais de manière complètement différente. C'est ce que Stéphane disait tout à l'heure, c'est faire des jouets un peu plus drôles, des jeux un peu plus performants. On parle souvent de productivité dans l'IA, que ce soit avec ChatGPT ou avec d'autres outils. Et en fait, on n'est pas forcément d'accord avec la définition de la productivité, où la productivité, c'est faire plus de volume en moins de temps. Mais c'est plutôt, on essaye d'avoir une philosophie sur la productivité est un outil qui permet, la productivité est une manière de pouvoir explorer plus et de prendre plus de risques. C'est ce qu'on essaye, c'est la vidéo qu'a présentée Stéphane, où on a vu quatre artistes qui ont utilisé les quatre mêmes outils pour faire de la musique. C'est est-ce qu'on peut leur permettre d'être plus productifs, mais plus productifs dans le sens où, en travaillant avec eux sur des prototypes qui leur conviennent, comment est-ce qu'ils vont réussir à faire prendre plus de risques, en fait. Et on va surtout chercher la singularité. Encore une fois, j'en reviens à ce que je disais Stéphane, souvent, j'ai toujours été étonné de voir qu'aujourd'hui, il y a des outils qui vous permettent de télécharger des boucles assez rapidement et finalement, tout le monde se partage ses boucles. Mais est-ce qu'on est capable, avec l'IA, de pouvoir revenir dans de la singularité où on n'est plus sur un mode de preset ou un mode de loop, mais un mode où vous allez avoir des propositions qui vous sont uniques et customisables et qu'il faut passer beaucoup de temps avec des artistes pour leur expliquer comment ça se passe. Bah, c'est ce que je voulais dire.
Ok, merci Michael. Pour rebondir un petit peu là-dessus, il y a une question. Ah pardon, non, mais j'allais te donner
peut-être quelque chose à ajouter parce que ayant travaillé pour une compagnie qui était beaucoup dans le consumer audio en fait, Behringer font des instruments qui sont vraiment pas chers donc c'est vraiment pour les masses quoi. Il y avait une question de mon côté qui est toujours une question que je me pose à l'heure actuelle qui est plutôt que de regarder l'artiste comment on regarde les artistes, mais encore plus comment on regarde les gens qui veulent faire de la musique. C'est-à-dire, il y a, quand on parlait au début de faire de la musique sans nécessairement être un cadreur du solfège, il y a quelque chose que Sony dit qui est comment on rend la création musicale plus fun, enfin plus amusante, parce que le dimanche, on a le choix d'aller à la pêche ou de faire de la peinture ou bien de faire de la musique. Donc, comment est-ce qu'on peut démocratiser les outils d'IA, enfin, démocratiser dans le sens où. Ils permettent à plus de gens de faire le choix de faire de la musique, d'utiliser leur temps pour faire de la musique plutôt que d'aller à la pêche. Mais c'est peut-être un angle différent de ce qu'on a vu ce matin où il y avait, disons, des artistes très singuliers, très particuliers qui essaient d'avoir une identité extrêmement forte dans ce qu'ils créent. Moi, je viens de l'angle où on essayait plutôt de faire des choses qui aidaient, disons, le plus de gens possible. Et par là, enfin, comment dire, la direction du labo que je dirigeais chez Music Tribe, c'était plus on rend la musique facile à faire, plus il y a des gens qui vont acheter des interfaces audio Behringer et des consoles de mixage. Donc, mais peut-être c'est un angle différent de ce dont on a parlé jusqu'à maintenant.
Je dirais un peu les deux, en tout cas pour Sony CSL, c'est que dans un sens, on veut démocratiser le fait de pouvoir faire de la musique, parce que quand on regarde le processus musical, parce qu'on passe beaucoup de temps avec des artistes. Et que de faire de la musique, c'est deux choses. C'est de la créativité et deux, de l'expertise technique. Et que l'IA est très forte pour comprendre l'expertise technique. Et souvent, l'expertise technique et la contrainte de pouvoir être créatif, c'est souvent un manque d'expertise technique qui ne permet pas d'être créatif. Et deux, en faisant des outils avec de l'IA, on permet aussi aux gens qui veulent être extrêmement techniques d'aller encore plus dans la technicité parce qu'ils peuvent aller encore plus loin et prendre encore plus de risques et aller explorer encore plus de choses possibles. Donc pour répondre à votre question, je dirais, en tout cas philosophiquement chez CSL, on essaye d'attaquer les deux sujets, mais qui sont en fait une seule et même solution.
Oui, je pense. C'est bon. Oui, je pense que c'est important ce qui se dit là, c'est que ce paysage, même pour ceux qui sont dedans, je pense de technologie créative, AI ou technologie générative pour la musique, le paysage est un peu flou parce qu'il manque un peu une taxonomie, même entre nous quand on en parle, de à qui on s'adresse. Et si jamais on affirme que le projet n'est pas de reproduire du crédible, mais de créer des nouvelles pratiques, alors on veut créer quoi comme nouvelles pratiques? Et justement, là, j'ai l'impression que ce qui se dessine dans ce qu'on se dit, c'est que si on essayait de commencer à réfléchir un peu à cette taxonomie-là, pour l'instant, de à qui on s'adresse, il y a tout un pan de cette recherche qui est tout ce que vous disiez tout à l'heure, rendre des choses plus accessibles, plus fun, donc avec des publics qui ont un intérêt pour ce type de technologie. Et à l'inverse, il y a tout un pan qui est, c'est un peu ce que je disais ce matin, nous le projet dans ce que j'ai montré, c'était d'essayer de travailler avec des gens et de faire des outils pour des gens qui ont envie, au contraire, de se compliquer la vie. Et ça ne veut pas dire nécessairement habiter dans une esthétique de musique expérimentale, mais qui ont une volonté de tester d'autres pratiques de composition, par exemple, comme je disais, composer un instrument électronique, composer la relation entre une entrée et une sortie en temps réel. Et justement, c'est ça, je pense, qui est au cœur de la discussion, c'est à qui on s'adresse. Et dans ce que je viens de dire, par exemple, là, oui, c'est des gens qui ont envie de, qui ont envie d'expérimenter, de geeker, pas nécessairement au sens technologique, mais même dans le sens de la pratique musicale, quoi.
Ouais, alors, il y a clairement, moi, de la discussion, il y a clairement deux profils d'utilisateurs qui sont assez différents, hein. Il y a les utilisateurs tout le monde, le week-end, au lieu d'aller à la pêche. Moi, je n'aime pas la pêche, je préfère faire de la musique. Voilà. Très bien. Et ceux qui aiment se compliquer la vie, à l'autre bout de la chaîne. Mais alors, I turn to my following, the following question to Stéphane and Jérôme, dont ils étaient tous participants. So, this model of, in which you integrate the artist to make collaboration, design tools, etc. In this discussion, for us, it seems obvious, but I don't think it's it's mainstream in the music tech community, or I'm not that sure. And if you want to experiment, you need time, and you need resources, and you need an artist. So, at Sony CSL, for instance, at Yercam, does the artist have an appetite for experimentation, and all, few, some, and why, and for what?
As Jérôme said, it's really, I think there are very different goals and aims that for example, we are following, and also how the models are built. I mean, our models follow the typical GenAI paradigm right now to train on lots of data, learn the data distribution, and then generate music in the style of the training data. That's limited. We can only go that far with such models. It's similar like if you ask if a large language model can actually reason, or if it just retrieves a lot of out of the data some answers. And it's similar in music. If the AI can actually listen, an AI cannot listen, understand the aesthetics of music. There are also structural properties of music that are important if you need to enjoy music, like self-similarity and other things like that. I think at one point we would need to equip the tools or the models with with a bit of music information, music theory, maybe using reinforcement learning rather than or adding reinforcement learning on top, which actually already happens, for example, also in large language models. Because currently, these models that train on lots of data, they actually sound pretty much like the training data. And if you want to also create really new styles and very new output, you definitely need to adapt your paradigm a bit. At the point, we are looking at how is music production, modern music production, done right now. What tools can we give the artists at hand to do whatever they anyway do more efficiently, or to explore faster the possibilities and so on, where it's already pretty well known what the direction will be when we train our models, and we don't need to explore new styles because that's just not the paradigm that we're following.
Yeah. Jérôme ou Michael ou Sacha, si tu veux continuer.
Alors sur travailler avec les artistes, donc chez Music Tribe, on travaillait aussi avec des artistes, mais peut-être des artistes encore une fois d'une population différente. On avait embauché Rachel Meddings, qui venait de finir son master en composition de musique populaire à Birmingham. Et elle était notre connexion avec un écosystème d'artistes, disons, aspirant à un certain niveau, mais plutôt dans la pop, le rap, le EDM et tout ça, quoi. Et c'était une expérience extrêmement riche. Donc c'est intéressant parce que finalement on est arrivé aux mêmes conclusions que certaines conclusions que Stéphane a montrées, c'est-à-dire que l'usage de l'AI pour aider à évacuer la page blanche, le syndrome de la page blanche, c'était quelque chose qui les intéressait. que les missing skills, donc Rachel était très très bonne pour jouer de la guitare, elle était une très bonne chanteuse, elle jouait de la basse, elle jouait du violon, mais elle ne savait pas faire de la batterie. Et donc du coup, avoir une génération conditionnelle de batterie, et ben, bam, c'était tout à fait perçu comme utile. Maintenant, sur les différentes populations de musiciens ou typologies de musiciens, on peut faire une analogie avec l'industrie automobile où il y a la Formule 1 qui, des fois, génère des innovations qui vont dans les voitures classiques. Moi, je ne peux pas acheter une Formule 1, mais je peux acheter une Peugeot, par exemple.
Dans Paris, c'est plus pratique.
Voilà, mais il y a aussi... par exemple, les utilisateurs de voitures vont vouloir, par exemple, un système stéréo pour jouer de la bonne musique dans la voiture, alors que quelqu'un qui pilote une Formule 1 n'a aucun intérêt pour écouter de la musique pendant qu'ils sont en train de prendre des risques sur une piste de course. Je pense qu'il y a autant de top-down que de bottom-up, d'aller des musiciens extrêmement pointus, professionnels. Ça va générer de l'innovation, comme on a vu ce matin, qui va se propager à des musiciens plutôt au niveau consommateur, musiciens du dimanche, comme moi et Nicolas, par exemple. Peut-être que lui, il est un peu plus pointu que ça. Mais il y a aussi une attention à avoir pour, encore une fois, d'un point de vue impact économique, qu'est-ce qu'il y a comme marché ? Si on considère les volumes de musiciens d'un type ou d'un autre, quel est le plus gros volume de gens qui aspirent à faire de la musique ? Et si on veut avoir de l'impact économique, comment on fait des choses en IA donnent de la satisfaction à ces gens-là aussi, quoi, en fait.
Ouais. Et peut-être Jérôme Nica, sur cet appétit pour l'expérimentation et passer du temps à se compliquer, etc. Alors toi, tu es un attracteur un peu, gens qui aiment se compliquer la vie, ils viennent à l'IRCAM te voir justement pour cette raison-là. Mais est-ce que de ton expérience personnelle, est-ce que il faut passer du temps ou il faut avoir un goût aussi pour l'expérimentation ? Peut-être tout le monde ne l'a pas.
Exactement, et c'est exactement ce que je voulais dire, c'était que, à mon avis, la question, c'est le bon terme, je pense, le côté typologie, plutôt que de réfléchir en termes de musique mainstream ou élitiste ou des genres ou des répertoires, puisque, alors c'est purement empirique des gens avec qui on travaille, mais... qui se ressemblent s'assemblent. Les technologies qu'on me propose, ce sont des choses qui permettent donc de travailler sur l'instrument en amont de la performance, de le composer, etc. Bon, et les personnes que ça va intéresser, ça, ce seront des gens qui ont cette démarche exploratoire, qui ont une certaine tendance à la formalisation et qui ont à la fois cet appétit pour le jeu, l'interaction, la scène, mais aussi sur la formalisation, la préméditation, etc. Et cette démarche exploratoire, on la retrouve aussi bien donc, dans des esthétiques de musique dite contemporaine que comme les collaborations qui sont en train de se monter actuellement, dont j'ai esquissé montré quelques exemples tout à l'heure dans le rap, le beatmaking et l'électro, c'est des choses qu'on trouve également. Et c'est aussi pour ça que c'est particulièrement intéressant d'arriver avec ces mêmes types d'outils dans différentes esthétiques, précisément pour avoir des retours critiques, pour en profiter pour faire un peu de musicologie, pourquoi pas, en disant « Ah, c'est drôle, on peut travailler avec Pascal Dussapin et des beatmakers avec le même modèle ici ». Par contre, telle sous-fonction va être cruciale ici et inutile là. Mais c'est ça, c'est l'aspect que je voulais souligner, sachant que il ne faut pas faire de mariage forcé et qu'il y a eu aussi de nombreuses rencontres qui n'ont pas abouti. Pourquoi ? Parce que l'envie n'était pas celle-ci. L'envie, le processus de création n'était pas celui de formaliser, travailler en amont sur le système, mais plus quelque chose qui soit organique, tout est prêt, j'essaye. Donc oui, il faut passer du temps et il faut avoir une appétence pour ça.
Ouais, alors tu as refait monter un point que je trouve intéressant, avec un mot que Michael à distance a dit, c'est la singularité. Et en fait, comment on se distingue en tant qu'artiste avec des outils qui sont de plus en plus homogène et standardisé, en tout cas pour le mainstream. Et j'ai l'impression que c'est un peu tout le défi dans ce qu'on appelle les ICC. D'un côté, il y a les industries, à la fin, il y a le I de industrie et le C de création. Il faut réussir à faire converger les deux. Et dans les exemples que tu as présentés, ce que tu as dit, ça me paraît très à propos par rapport à ça, c'est qu'en fait, tu as un outil qui est le même, mais chaque artiste va avoir une manière différente de se l'approprier.
C'est un peu moi ce que je remarque avec les outils CSL, c'est par rapport à ta question, que je vais répondre à deux questions en une. C'est un déjà, effectivement, si on veut collaborer avec des artistes, il faut qu'on collabore avec des artistes qui, généralement, ont un setup qui est déjà prédéfini, qu'ils connaissent par cœur. Il faut des artistes qui sont capables et qui ont envie d'expérimenter et d'être dans la contrainte technique parce que ce sont des prototypes et c'est pas forcément facile. Après, il y a une chose qui est mainstream, qui est générale, c'est que ce soit un artiste expérimental ou un artiste mainstream, un artiste qui a envie de travailler avec nous parce qu'on fait pas de brand endorsement, donc on ne paye pas les artistes, donc ça veut dire que c'est vraiment sur leur temps libre. Ils viennent chez nous. Il y a un truc qui est très très fort, c'est le besoin de singularité. Je vais prendre un exemple un peu idiot, mais aujourd'hui l'autotune est très 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 présent. Tous les artistes nous demandent quel est le futur de l'autotune et quelle sera leur façon à eux de se démarquer des autres dans un monde qui est pour moi aujourd'hui justement plus standardisé, où justement tout le monde essaie de sortir de cette standardisation, et que je pense que les outils d'IA, où souvent ils sont accusés de faire rentrer tout le monde dans une standardisation, nous on essaye en tout cas philosophiquement de faire en sorte que justement ces outils d'IA vont permettre aux gens d'explorer plus, donc prendre plus de risques, et donc de sortir du côté un peu mainstream ou du côté référence ou du côté preset, et que c'est justement ce que l'IA va pouvoir apporter, c'est permettre aux gens d'aller chercher leur propre singularité sans avoir besoin d'une expérience technique, de décennies d'expérience technique, pour arriver à un son qui leur est propre, parce qu'ils vont pouvoir utiliser l'outil de leur manière et pour aller chercher la chose qu'ils vont chercher eux-mêmes. Voilà.
Alors, oui, mais il y a aussi un autre côté de la médaille. Quand on regarde Udio et Suno, moi je me demande tout le temps quel est leur modèle économique, qu'est-ce qu'ils essayent de faire, qu'ils essayent vraiment de faire.
On ne parle pas de Udio et Suno, il faut faire attention, c'est que je pense qu'il faut vraiment faire une séparation.
Exactement.
On parlait tout à l'heure des gens qui faisaient de la musique.
On est d'accord.
Qui allaient à la pêche ou qui faisaient de la musique, il y a des gens qui veulent faire de la musique et qui donc vont s'impliquer dans des outils technologiques pour faire de la musique.
D'accord.
Et il y a des gens qui ont envie de t'exprompter rapidement quelque chose pour faire une blague.
Tout à fait, mais il faut laisser parler les deux, en fait. Udio et Suno, moi, je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'ils essayent vraiment de faire, puisque, évidemment, ça n'intéresse pas les artistes d'avoir une track qui est faite de A à Z, puisque, un, c'est pas terrible, la qualité n'est pas super, deux, ils peuvent pas la corriger parce qu'ils n'ont pas les stems. Donc, il y a vraiment une question là, mais comment ça se fait que ces compagnies attirent tellement de capitaux si on ne comprend pas vraiment ce qu'ils veulent faire? Alors, il y a une théorie qui circule qui est que Udio et Suno essayent de faire plus des réseaux sociaux captifs que de faire de la musique. C'est-à-dire d'avoir, comme par exemple Instagram, qui à l'époque avait des méthodes pour faciliter la prise de vue de photos et la correction de photos, d'avoir d'un côté des gens qui produisent du contenu, et là on ne parle plus de musique, on parle de contenu en fait, et il y a un peu de confusion entre le contenu digital et la musique, et il y a aussi un peu d'alarme sur ce plan-là entre est-ce que la musique c'est toujours la musique, ou est-ce que maintenant il y a une proportion de gens qui veulent juste du contenu. Et il y a donc une théorie qui dit que ils veulent avoir un réseau social captif où d'un côté il y a des gens qui appuient sur le bouton pour faire de la musique et de l'autre côté il y a des gens qui écoutent la musique, et puis qu'entre temps on peut faire de l'argent sur la publicité, sur l'économie, ce qui s'appelle l'économie de l'attention, c'est-à-dire que les gens vont passer du temps à soit appuyer sur le bouton, soit regarder le résultat. Et c'est peut-être plausible. Après, je ne suis pas dans les baskets de Suno et Udio, mais enfin, quand on regarde leurs produits, leurs plateformes, eh ben, y a un côté réseau social. Et peut-être que la finalité, finalement, c'est ça. Et qu'effectivement, il ne faut pas se tromper entre faire de la musique et faire du contenu, quoi.
On est d'accord. Alors, le temps file et je pense que nous avons peut-être du temps pour une ou deux questions. Ah, ben voilà. Oui. Ah, ben. Est-ce que quelqu'un peut apporter le micro?
Oui, bonjour. Donc, Bonjour, donc Hugues Vinet de l'IRCAM. Maybe I will speak in English so that everybody understands, right? So I really appreciated your presentation, Stéphane, and in particular when you presented Udio and the fact that they use databases that they don't own. So, and this is really an issue for us as technology providers with two aspects, actually. How can we produce music? Because our goal is this at IRCAM. How can we produce music with these kinds of tools that use databases that we don't own? Or said differently, can we restrict learning to very small databases that we own and still make interesting results? So what is the right trade-off? And this question is raised also then if we want to market the tools we develop, of course, because this is same issue. So what kind of positive trade-off can we find with that technology?
Yeah, that's actually really the challenge right now. Yeah, I mean, I'm creating more data efficient models is definitely an important point. I mean, one can work with different tricks. You can do things like data augmentation. You can always pitch shift or time stretch your data to just have a higher density in your data space, but of course you wouldn't get actually very new qualities out of this, but this can already help. We're also looking into synthetic data. I mean, if you know already some music theoretical rules, this could make sense, but also in order to break out of the data distribution, it could make sense to have more sparse constraints. I'm not that strict, and equip a model with such additional constraints, like in reinforcement learning, if you have a critic that allows much more than your data distribution would actually show. So basically, you shouldn't be very wrong. You are then flexible to constrain basically the output space in a different way. But yeah, that's actually really the challenge that we have to look into. As I said, even synthetic data is an option in that regard. But yeah, this is definitely still an unsolved problem. Currently, it's really the case. The more data you throw at the model, the better it will perform. And this won't change so quickly, so one needs to be really creative in that regard.
So it's something that Sony is really working on, is that Sony is maybe the only giant tech company that also is a giant copyright owner. And so we're trying to be extremely careful, and we're trying to find win-win situations where we can train AI models on copyright. And we are trying, and we are focusing a lot on how to make these models. So that's why we, and Stefan presented it earlier, that's why we try to speak with SACEM, with Sony Music Publishing, is that how can we make it work for everybody, and make a win-win situation? But it's still a very big challenge as of today.
So in the industry, I've seen companies actually paying musicians to play music, to own the music, to train the models. There's a company called Moises, which became, I think now they're called music.ai, and they contracted musicians to have the full ownership of the data. One thing which gets a bit lost in the debate about the copyright is that whenever you do machine learning, commercially, it's the bread and butter of what you're doing to actually have what's called the freedom to operate, as in to own the data that you use to make your model. And I don't know, like people should talk a bit more about that. So things like the transparency of data provenance is one of the key elements, should be one of the key elements of this debate, which is pushed by the regulations of European Community, but there is more emphasis on the outrage of using copyrighted music without paying for it than there is on actually the simple solution, which is just force Udio and Suno to tell you what is the data provenance. Because if they say we just scrape the data, then yeah, they don't own it. When I was at Audio Analytics, we were never using YouTube data, for example, because we knew that would bite us back. So we did record our own sounds to train the sound recognition model. Yeah. It's very important.
Meanwhile, Suno and Udio, they don't even deny anymore that they train on a lot of data. They're now invoking basically copy called fair use in copyright, which probably not doesn't work, but we will see. But as I said also in my talk, I think it's also important to basically find ways that musicians actually would like to participate in to a data set, and that you basically it's easier to create such data sets. And for this, you really would need to ask, okay, what is the value of the music? What is an artist? What do they want for it? And then you have to make it work. You have to make the models maybe more expensive, or the usage of models, or you have to just find agreement, because I mean it should be a win-win situation for everyone, and you cannot you need to find solutions in that regard. Yeah,
100%, yes. Musician could, in principle, make economic revenue from the eye, but then the ways need to be created. We're paving the way as we go, absolutely.
Exactly, yeah. This can be an additional revenue, source of revenue.
Yeah, this is something which is going to be discussed this afternoon during the last roundtable of the day about reglementation aspects. Je repasse en français. On peut applaudir et remercier nos 4 intervenants de cette table ronde. À ma montre, au 4e top, il est 3h16. C'est l'heure de la pause déjeuner. On se retrouve à 14h16 pour la reprise, histoire d'avoir une heure pour aller déjeuner. À tout à l'heure et merci à vous.